bonsoir et bienvenue dans cette émission. Deux thèmes pour ce débat. La Cour internationale de justice de la Hague somme l'Ouganda de verser la somme de 325 millions de dollars américains à la RDC au titre des dommages subis après l'invasion de son territoire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a publié jeudi 3 février dernier sa feuille de route du processus électoral. Dans ses documents, elle évoque les contraintes auxquelles il faut trouver des solutions pour la réussite de la tenue des élections de 2023. Il s'agit entre autres du retard dans les financements des opérations électorales, de la volonté politique, de la production à temps des lois essentielles et de la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Ce sont les principaux thèmes de ce soir. Et trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcel Ngoï, le journaliste, éditeur du journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonjour, bonsoir, c'est long, merci.
Nico Faye, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Nico Faye.
Bonsoir estimé, mais je voulais rectifier, maintenant je me consacre beaucoup plus à Nico Faye Télévision et Combattant.net.
Chaki Pingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant Matadi dans le Congo central. Bonsoir Charles Kipingani.
Bonsoir Kimilanté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Papi, bonsoir au monde entier.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes journaliste et éditeur du journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa. Et c'est vrai, l'actualité qui a semblé captiver l'attention cette semaine, c'est cette affaire des conspirations contre la patrie, coup d'État manqué. Vous commentez cette actualité ou vous avez autre chose à commenter?
Moi, je crois que cette affaire de conspiration est aujourd'hui un arbre qui cache la forêt, parce que on commence à assister à une sorte de théâtralisation de la scène politique. Les accusations vont dans tous les sens, les dénonciations dans tous les sens. Donc l'ANR a une pleine responsabilité de tirer au clair ces dossiers-là. Parce que la conspiration suppose la déstabilisation des régimes, suppose la neutralisation d'un chef d'État de son système, ça suppose l'ébranlement de ce qu'il y a comme fondement actuel du fonctionnement institutionnel. Et donc c'est une affaire importante. Il faudra que, en même temps qu'on y met le soin nécessaire, qu'on est méticuleux dans le travail, mais que la rapidité permette quand même de tirer rapidement au clair ces dossiers. Parce que quand on évolue dans un monde suspicieux, et donc le travail en pâtit, et c'est le cas, aujourd'hui, c'est la paralysie totale dans le fonctionnement, on ne sait vraiment plus à quel sens se vouer. Et je pense que c'est important qu'on tire au clair rapidement ce dossier-là.
Merci Nico Faye. Je rappelle que vous êtes journaliste responsable de Nico Faye Télévision et Combattant.net. Est-ce que vous partagez les points de vue de Marcel Ngoï qui estime que, à ce stade, l'ANR a intérêt, n'est-ce pas, à tirer au clair cette affaire de conspiration contre la patrie?
Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Je dois rappeler aux Congolais qu'il reste 690 jours pour la fin de ce mandat. C'est très important parce que nous tendons lentement mais sûrement vers la fin du mandat. Mais jusque-là, il y a nébulosité du côté et de Kinshasa et de la CENI. Parce que les élections sont un processus et pour cela, il y a deux étapes à respecter. À ce jour, moins de deux ans, on ne sent pas du côté de Kinshasa les fonds. Bien sûr, il y a d'autres aspects administratifs. Il y a la loi sur la répartition des sièges. Il y a plusieurs lois qui doivent être encore votées. Mais jusque-là, et du côté moyen, et du côté administratif, et même la CENI même, j'ai encore emboîté le pas avec sa feuille de route, annonçant qu'il y a plusieurs contraintes. D'un côté, on nous dit qu'il y a maximisation des recettes, mais de l'autre côté, on ne sent pas les mêmes rythmes maintenus. Et je souligne aussi que du côté de la CENI, il y a les impayements et des enjeux même qui travaillent. Nous posons la question à moins de deux ans, est-ce qu'on va le faire? Affaire de conspiration, nous sommes dans un flou artistique. Il y a un distinguo entre conspiration et un coup d'État monté manqué. Conspiration, ça peut être encore dans le bureau, les gens sont en train de mijoter, les gens sont en train de chuchoter. Mais quand on dit coup d'État monté manqué, c'est-à-dire qu'on n'est plus encore à l'étape de la conspiration, on est passé à l'acte. qu'à ce stade, quelle est l'institution de la République qui avait été attaquée? Ce sont des questions que nous posons. Quand on dit coup d'État monté, manqué, c'est un coup de force. Une institution de la République a été touchée, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais à ce jour, quelle est l'institution de l'État qui avait été attaquée par les éléments incontrôlés, par les militaires, mais qui a eu controverse et qui l'armée loyaliste ait récupéré la situation? Et aujourd'hui, on assiste à des interdictions, nous nous posons la question, c'est ce que j'avais tiré la sonnette pour dire que, attention, on risquerait de tomber dans l'arbitraire. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a un ancien gouverneur de Tanganyika qui a été empêché de son passeport diplomatique. Il s'agit de Zoé Kabila, à qui on a retiré le passeport diplomatique. Pourquoi ? Il y a des arrestations où il y a eu un député national au niveau de Goma qu'on a arrêté après relaxé. Nous nous posons la question, sommes-nous encore dans un état?
Merci Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus paraissant à Matadi dans le Congo central. Charles, comment la population de Matadi du Congo central a réagi face à toutes ces informations, n'est-ce pas, faisant état de cette affaire de conspiration contre la patrie?
Merci beaucoup du matin, une fois de plus par rapport à la parole, mais je crois que faisant la continuité de la ville de Kinshasa, les Congolais de la province concentrale sont beaucoup plus actifs par rapport à tout ce qui se passe à Kinshasa, mais je crois que, comme le conseil vient de le dire, c'est juste encore une conspiration, mais on a pensé que le chef de l'État a un mauvais entourage, donc il doit faire en sorte qu'il puisse balayer son entourage. Mais au niveau de la province, j'aimerais quand même commenter sur cette nouvelle des députés provinciaux qui menacent de boycotter l'élection des gouverneurs en cas de non-paiement de leurs 10 mois d'arriérés, et de donc ce qui continue à alimenter le débat dans tous les couloirs. Hein. Et la plupart des gens estiment que ces députés n'ont pas raison de réclamer quoi que ce soit parce qu'ils ont été improductifs. Alors que de l'autre côté, c'est le premier problème de l'absence d'une politique d'encadrement des femmes dans la province du Congo central. Toutes les structures étatiques censées et vraies pour la promotion et l'émergence de la femme, en tout cas, ne sont que pièces figurantes, ou sinon simples figurantes. Et il est donc demandé au gouvernement international et provincial, au bailleur des fonds, de mettre tout en œuvre pour se joindre aux efforts de l'ONG des actions pour la gouvernance locale, qui depuis plusieurs mois s'est lancé dans l'encadrement des femmes à travers des formations professionnelles, notamment l'esthétique, la coupe et couture dans la ville de Boma, et où dans son sens, qui est ce qui est au kilomètre, oui, c'est déjà, a déjà montré ses progrès dans l'autonomisation de la femme, qui reste un défi vraiment majeur à relever. Et avant d'en ouvrir, parce que ces temps, cette ONG prévoit d'ouvrir encore d'autres temps pour juste et encore continuer à encadrer les femmes. Mais il y a un autre aspect, je ne l'ai cité par là, dit, qui est un grand défi aussi, celui de l'encadrement de la jeunesse de manière générale. Vous savez qu'en 2018-2019, la BAD avait lancé un projet et où on devait recruter plus de 500 jeunes qui devaient être des entrepreneurs dans le domaine agricole. Mais jusqu'à le projet est resté dans les tiroirs et les jeunes continuent à se poser des questions où en sommes-nous, parce que les conséquences, c'est la délinquance juvénile qui continue à prendre de l'ampleur. Vous avez suivi qu'au niveau de la cité côtière de Mwanda, une cité beaucoup plus, où on sent beaucoup plus l'ampleur des militaires. La criminalité a monté d'un cran, et il y a même des enfants des officiers militaires qui sont retrouvés dans les rangs des coulons, et en plein jour même on est en train d'opérer. Donc il faut que l'État fasse quelque chose dans ce qui est de l'encadrement de la jeunesse, parce que et ça risque d'être une bombe à retardement, et surtout encore l'encadrement de la femme, parce que dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer une nation.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. La Cour internationale de justice de la Haye somme l'Ouganda de verser la somme de 325 millions de dollars à la RDC au titre des dommages subis après l'invasion de son territoire. Ce verdict est tombé hier mercredi à la Haye, siège de la Cour internationale de justice. Dans son arrêt, la CIG précise que sur ce montant de 325 millions de dollars, 225 millions concernent les pertes en vies humaines, 40 millions pour les dommages aux biens et 60 millions pour les dommages aux ressources naturelles. Les rappels des faits avec Babel Pongo.
En rendant son jugement, la Cour internationale de justice, CIJ, a indiqué accorder à la RDC 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes. Ceci comprend les pertes en vies humaines, les viols, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements des civils. Elle accorde également 40 autres millions de dollars pour les dommages causés aux biens et 60 millions pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Pour la juge Joanne Donog, présidente de la CIJ, la réparation accordée à la RDC pour les dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi par les individus et les communautés du fait de la violation par l'Ouganda de ses obligations internationales. L'Ouganda est condamné à payer 325 millions de dollars en 5 versements annuels de 65 millions de dollars à compter de septembre. Pour rappel, les jugements rendus dans les différents États sont contraignants. La Cour règle les différents juridiques qui sont soumis par les États conformément au droit international. Elle donne également des avis consultatifs sur les questions juridiques soumises par des organes et des institutions spécialisées autorisées des Nations Unies.
Merci à vous, Babel Pongo. Martin Ngoy, journaliste et éditeur du journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa. Alors que la RDC exigeait plus de 11 milliards de dollars, la Cour internationale de justice somme l'Ouganda de payer 325 millions de dollars à la RDC. Et quelle est votre lecture par rapport à ces verdicts de la CIJ, monsieur Marcel Ngoy?
Oui, ce verdict démontre combien les vies humaines sont banalisées. 11 milliards, c'est la demande de la République, mais il faut voir combien de personnes avaient été fauchées par la présence de cette armée du pays de l'Ouganda ici chez nous. C'est entre 15 à 20 000 personnes tuées. Et comment répartir les 225 millions entre les victimes et comment même on va prendre 60 millions pour aller donner et tout ça dans des procédures concernant les autres préjudices qu'ils subissent. Moi je pense que le montant est minime. Il faudra quand même que la République, je ne sais pas ce que prévoit la procédure en matière de droit international, s'il y a un droit de recours et à quelles juridictions s'adresser dès lors que la Cour internationale de justice a rendu cet arrêt. Donc je pense que le montant est très faible et que la vie humaine est totalement vassalisée à travers cet arrêt. Je crois qu'il faut élever une véhémente protestation pour réclamer, car la vie humaine qui est sacrée a été tuée, on a tué les gens inutilement. Je considère que, bien que tard, ça fait longtemps que cette procédure est en cours, et il faut aussi regarder quels sont les engagements récents que nous avons avec la République de l'Ouganda pour que, dans le cadre de ce qui s'est fait aujourd'hui en matière d'état de siège, est-ce qu'il n'y a pas, il ne faut pas qu'un jour qu'on nous dise que l'Ouganda devait nous payer par ses prestations dans le cadre de l'état de siège. Donc c'est aussi des choses auxquelles il faut regarder pour ne pas tomber dans des pièges. Je note toutefois que la Cour a prévu une procédure et a fixé un timing et qu'il y a un caractère contraignant de l'exécution de cet arrêt. Mais que ferait-elle cette Cour si l'Ouganda ne respecte pas ses échéances? Et là aussi, on dit qu'il y a des procédures, il y a des mécanismes qui ont été prévus. Mais connaissant comment les jugements, et surtout au niveau international, sont rendus, et dans les cas d'espèce avec la Cour internationale de justice, la plupart des pays ne s'exécutent pas souvent. Donc, il faudra trouver des mécanismes à la fois pour revoir le montant à la hausse, parce qu'il faut qu'une réclamation, un appel soit formulé pour que nous puissions intervenir un recours à ce niveau-là pour réajuster le montant. Et il faudra aussi que l'exécution se suive et s'en suive parce que très généralement, les jugements sont trop peu exécutés, surtout en ce qui concerne les pays africains.
L'arrêt dit que si l'Ouganda ne respecte pas les différentes échéances, il y aura des pénalités, que l'Ouganda paiera ses fonds avec des intérêts. Et puis au sujet des possibles recours, les experts disent que la CIJ, donc la Cour internationale de justice, décide en dernier ressort. Nico Faye, vous êtes responsable de Nico Faye Télévision et Combattant.net. Certaines ONG congolaises de défense des droits de l'homme se disent déçues par cette décision de la Cour internationale de justice. Elles jugent cette somme de 325 millions de dollars dérisoire comparativement aux dégâts causés par l'invasion de l'armée ougandaise en RDC. Elles évoquent par exemple les minerais que l'Ouganda a exploités pendant cette période de 5 ans qu'elles estiment en termes des milliards de dollars américains.
Oui, tout à fait. C'est au-delà même de la déception. Et cela nous pousse à poser la question à ceux-là qui parlent de la diplomatie agissante, du retour de la RDC sur l'échiquier international. Vous savez d'abord, les droits internationaux en soi, c'est un droit imparfait. C'est un droit qui tient compte que
de rapport de force. Vous êtes fort, on vous respecte. Vous n'êtes pas fort, on ne va pas vous respecter. Je vous donne un cas de figure. Vous connaissez l'affaire de Lokerbi, qui a opposé Tripoli aux familles des victimes majoritairement anglo-saxons. Comment voulez-vous que Tripoli, malgré l'endettement, aille à débourser 2 milliards de dollars pour 268 personnes. 2 milliards de dollars américains, malgré le bras de fer. Mais comment voulez-vous des villages entiers brûlés, des gens tués, et qu'on accorde 325 millions sur une requête de 11 milliards de dollars américains, même pas 5%. Et cela tombe à quel moment ? Ça coïncide avec l'entrée des troupes ougandaises sur terrain, au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, le Parlement ougandais a refusé de financer les troupes ougandaises sur le territoire congolais avant qu'il n'y voie clair dans ce dossier-là. Ils aimeraient d'abord qu'on définisse, qu'ils soient au courant des nombres des bataillons, des nombres des troupes, et la durée de la mission pour qu'il soit édifié. Mais aujourd'hui, 325 millions coïncident avec l'entrée des troupes ougandaises sur terrain. Est-ce qu'on ne risquerait pas de tomber dans une compensation? Et pour l'ami qui avait soulevé la question de pénalité, la Cour a estimé que si Kampala n'arrivait pas à respecter les paiements avec les différentes séances, il y aura des pénalités de 6% pour chaque année. Mais qu'à cela ne tienne, quelle est la contrainte au niveau international, dès lors que nous savons que la Cour internationale de justice n'a pas de police ni armée?
Merci beaucoup, Nico Fray. Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans les Congo central, dans son arrêt, pour justifier le fait que la Cour n'a pas tenu compte de la demande de la RDC qui exigeait plus de 11 milliards de dollars, les juges évoquent des accusations formulées par la RDC qui ne sont pas étayées sur des éléments de preuve. Charles, on a besoin de quelles preuves là où les familles des victimes sont identifiées, là où les tombes où ont été enterrées les victimes sont même connues? On a besoin de quelles preuves? Quelles autres preuves on voudrait avoir?
C'est justement un peu couillant de la part de l'Ouganda. Vous savez, le contexte, il parlait de la force de la faiblesse. La RDC, nous avons beaucoup manifesté la faiblesse vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. Nous sommes toujours hospitaliers vis-à-vis de ceux qui nous dérangent et qui nous détruisent. Vous êtes beaucoup revenu sur les pénalités, les amis, ils sont beaucoup plus revenus. J'aimerais d'abord vous dire, peut-être trois petites raisons, mais qui m'a cœur. Il y a les dispositions contraignantes, s'il y en a, réellement, qui sont véritablement contraignantes, réservées à l'endroit de l'Ouganda, en cas de non-exécution de cette mesure. Et ça, c'est ma première inquiétude. La deuxième, de notre côté, avons-nous des sanctions que nous pouvons réserver à l'Ouganda et s'il n'exécutait pas cette mesure? Et la troisième, comment la population a toujours persisté cette situation, en commençant par ceux qui avaient perdu les leurs? Y a-t-il une réparation? S'il y a une réparation, est-ce qu'il y a des garanties de non-répétition? Est-ce que les auteurs directs et indirects, parce que dans ce genre d'histoire, il y a bien sûr des Ougandais, mais qui ont collaboré certainement avec des Congolais, parce que rien ne peut se faire dans votre terre s'il n'y a pas de fils du pays qui complotent comme d'habitude. Parce qu'on peut payer des millions de dollars pour des dommages et compenser aux vies humaines. Mais rien ne peut remplacer la vie humaine qui est du reste sacrée. À mon humble avis, la seule manière de tenter de consoler ces familles qui ont perdu les leurs serait de passer par la garantie de non-répétition, parce que ce sont des choses qui se passent. Ça ne commence pas aujourd'hui. L'Ouganda, le Rwanda et les autres pays nous ont toujours causé du tort. Il y a d'abord la garantie de non-répétition qui doit être mise en place. Les sanctions, alors, exemplaires à l'endroit des auteurs et co-auteurs congolais, déjà, qui ont été aux côtés des Ougandais pour arriver à réaliser ces massacres-là, mais aussi la réparation. Et ici, on parle de l'argent, le Conseil de la prospérité a dit que la somme est modique, la somme n'est pas suffisante. Mais moi, je ne vois pas forcément la somme. Mais est-ce que ces gens-là vont entrer effectivement en droit de ce qui leur sera revenu? Parce que, vous savez, chaque fois qu'il y a des drames, chaque fois qu'il y a des victimes, des inondations, et qu'il y a de l'argent qui vient pour essayer un peu de consoler les victimes, mais vous savez comment ça se passe. Il y a toujours des gens qui réclament, n'a pas réussi ou n'a pas rien réussi. Et donc, c'est si on peut passer par ces trois étapes, donc la garantie de non-répétition et la mise en place surtout de la justice transitionnelle qui souffre encore d'application juste à ce jour ici, c'est ce qui intéresse plus. Mais la somme grande ou petite, à mon avis, ne peut pas du tout intéresser les gens. Mais si quelqu'un qui a perdu son frère, sa soeur, son membre de famille, qui va être consolé par les sanctions infligées à ceux qui ont comploté contre le pays, contre les frères, je crois qu'il serait un peu soulagé.
Merci. Merci, Marcel Ngoï. Comment vous pouvez expliquer qu'une procédure qui a commencé depuis 17 ans, que la RDC ne soit pas en mesure de fournir des éléments de preuve, hein? En droit congolais, c'est le certificat de décès qui est l'un des éléments qu'on exige, n'est-ce pas, pour attester qu'une personne est morte. Et pendant 17 ans, le pays, la RDC, est incapable de produire des certificats de décès de toutes les différentes victimes. Comment vous expliquez cela, Martin Ngoï?
Oui, ceci se justifie par le fait que, très généralement au Congo, l'État congolais, lorsqu'il fait face à des procès, il y a pratiquement toute une sorte d'abandon, abandon des dossiers. On sèche les audiences, on brille pas l'absence, et que, finalement, la plupart des jugements sont rendus par défaut. C'est toujours la République démocratique du Congo qui est souvent absente. Les avocats de la République sont, par le fait de ne pas être suffisamment bien encadrés, et même de manquer d'éléments de réponse ou de soucis de prendre en compte la dimension de la défense des intérêts de la République, brillent eux aussi par l'absence. Et c'est comme ça qu'il y a ce qu'on a appelé la faillite de l'État. Et l'État congolais, depuis 17 ans, n'a pas été géré que par Félix Tshisekedi. Et vous, ça remonte au régime précédent, à l'autre autorité qui a géré la République à votre monde. Et nous pensons que c'est une responsabilité pleine et totale qui est engagée de tous les responsables du pays, à tous les niveaux que ce soit, de pouvoir aujourd'hui se réveiller. Parce que depuis 17 ans, comment ne pas fournir de preuves suffisantes pour que la Cour prenne en compte les revendications de la République? Car 325 millions sur 11 milliards qui étaient demandés par la RDC, ce n'est même pas les 1% ni les 10%. Donc c'est quand même une somme minime par rapport aux dégâts collatéraux que cela a causé en termes de pertes en vie humaine, de destruction de l'écosystème et même de sacrifices qui ont été consentis par différentes personnes qui ont été d'une manière ou d'une autre impliquées dans cette affaire. Donc moi, je déplore ce déficit d'État en matière de justice, que ce soit justice interne ou externe. On a intérêt aujourd'hui à saisir la balle au bon pour tirer des leçons sur une telle situation qui démontre que l'État congolais, dans son fonctionnement, a encore des efforts à fournir, surtout dans le domaine de la justice. Il faut revaloriser la magistrature, ça ne doit pas être un vœu pieux, ça doit être une politique, une vision qu'il faut matérialiser. L'État de droit, c'est aussi tout ça. La défense des intérêts de l'État, des intérêts vitaux de l'État, et même faire en sorte que l'État congolais ne soit pas en porte-faux par rapport à toutes les lois, aussi bien nationales qu'internationales. Donc, c'est une débâcle, enfin. C'est une indolence du point de vue de la gestion de la République. Il faudra que les autorités comprennent que pour aller vers un État de droit, ce sont les lois, les règlements, les procédures qui doivent être maîtrisées. Même si vous avez raison dans une affaire, mais si vous abandonnez les procédures de comparaître, de faire le suivi, on tombe finalement dans des cas comme ceux auxquels nous assistons aujourd'hui avec la Cour internationale de justice, qui fixe un montant unilatéralement, et ce montant n'est pas discutable, parce que la Cour siège en premier et dernier ressort, et donc on est obligé d'avaler des couleuvres. Je considère que maintenant que le verre est tiré et que le Congo est obligé de le voir, alors il faudra en tirer quand même des leçons pour l'avenir. Parce que dans d'autres affaires qui sont pendantes devant les juridictions internationales, que la République ne continue pas à subir des défaites cuisantes comme c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit 325 millions, c'est parce que justement, cette Cour siège. Mais la Cour siège, un confrère l'a dit tout à l'heure, cette cour n'a ni de police ni d'armée. Comment faire exécuter son arrêt? Comment faire en sorte que cet arrêt soit aujourd'hui en application? Donc il faudra, en plus du fait du droit, que la diplomatie agissante en question à laquelle nous pouvons faire allusion, que cette diplomatie entre aussi en action, parce qu'il faudra que cette affaire soit tirée au clair. J'avais dit à un moment qu'il faut éviter des télescopages de responsabilités. Aujourd'hui, nous avons, sur le sol congolais, la présence des troupes ougandaises venues à la rescousse de l'armée de FARDC. Alors, nous craignons qu'on nous dise pas un jour que l'Ouganda aurait payé par des mécanismes de compensation, parce qu'à ce moment-là, on risque de se retrouver sans avoir cet argent-là.
Merci Nico Faye. Apparemment, on n'a pas tenu compte des circonstances atténuantes. On se rappelle que les faits s'étaient produits dans un contexte de guerre, un contexte de non-État où aucun service public n'est fonctionné. Et comment, dans un tel contexte, on pouvait établir des preuves, des éléments de preuves, des documents tels que les certificats de décès, par exemple, Nico Faye?
Non, c'était préestimé. Il y avait une administration, non? Il y avait une administration. Vous voulez me dire que non, pendant la période d'occupation, dans les territoires occupés par le RCD, le MLC, RCD-KML, les autres là, il n'y avait pas d'administration. Il y avait d'administration qui assurait les mêmes charges qu'un État normal.
Nico Faye, mais l'administration à l'époque était tenue par ceux-là même qui étaient accusés d'avoir commis des exactions. Est-ce que cela pouvait vraiment... Vous pensez qu'ils avaient intérêt à se faire harakiri en produisant les éléments de preuve sur les exactions qu'eux-mêmes étaient accusés d'avoir commis?
Oui, vous voyez, ce que vous voulez évoquer aujourd'hui, nous risquerions encore de tomber dans cela. Comment voulez-vous? Vous avez une affaire en justice et que vous faites encore appel à la partie adverse avec laquelle vous êtes opposé en justice. Est-ce que ça a au moins un sens? Au moment où Kinshasa a recouru au service de Kampala, cette affaire était déjà pendante. Est-ce que moi, tel que je suis là, je porte plainte contre vous? En attendant la décision de justice, je recours encore à vous pour solliciter vos services. Ça n'a pas de sens. J'ai soulevé cette question, vous me donnerez raison. Les familles des victimes, parce qu'il y a une rubrique, 225 millions, cet argent-là doit être rétribué aux familles des victimes. Mais par le temps qui court, je vais de le souligner, le Parlement ougandais a refusé de débloquer les moyens. Il aimerait voir clair dans cette affaire. Si Kampala ne donne pas les moyens, entre-temps, qui va payer la facture des troupes ougandaises sur le terrain au Congo-Kinshasa? Qui va payer? Et nous risquerions qu'on nous dise un jour qu'on a compensé sans que les familles des victimes soient indemnisées, quand même c'est minime. Vous pensez qu'on condamne Kampala et que Kampala aille débourser l'argent au moment où ses troupes sont sur le territoire congolais?
Merci Nico Faye, on a compris. Charles Kilingani, il y a aussi ces problèmes d'avocats. Hein. Plusieurs fois la RDC a changé les avocats par rapport à ces dossiers. À l'époque, il y avait le professeur Tibang Kalala. À un moment donné, l'ancien ministre de la Justice, Ntambo Mwamba, avait arraché les dossiers à Tibang Kalala pour les confier à ses avocats, à lui. Et puis récemment, il y a eu d'autres avocats. Est-ce que cela ne peut pas expliquer aussi le fait que la RDC avait du mal, n'est-ce pas, à étoffer les dossiers? À votre avis, quelles leçons la RDC peut tirer de cette affaire, Charles Kipitani?
C'est le désordre administratif. Parce que lorsqu'on a été avec Tibang Kalala, nous avons aussi dit qu'il avait quand même la prison. Parce qu'on l'accusait d'avoir confisqué les dossiers. Il exigeait quand même des droits. Ses droits de prestation avant de remettre les dossiers jusqu'à ce que cela lui avait la prison. Et donc c'était déjà un élément qui démontrait que ces dossiers n'avaient pas de chance. Et donc je crois que ce genre d'événements doivent nous servir de leçon pour que nous devenions beaucoup plus sérieux. On ne peut pas jouer sur les vies des gens. Vous savez, nous avons dans le cas des DDR là, des mobilisations, réinsertion, tout ça. Lorsqu'on enrôle les officiers qui ont tenu des armes pour leur pays, nous devons tenir compte de ces armes. Vous vous êtes posé la question par rapport à ces temps-là et avec une administration presque inexistante et tout ça. Donc, mais il y a des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont participé dans ces massacres-là, ils sont identifiables. C'est là déjà les problèmes. Et lorsque on met quelqu'un en prison pour avoir réclamé ses droits, ça ne vous dit rien par rapport à la logique des dossiers. En RDC, nous sommes des spécialistes dans les camouflages de situation. Je crois que le ministre des Droits humains, Fabrice Tola, que je salue en passant, s'est beaucoup bâti pour faire exprimer les histoires de la justice transitionnelle qui, une fois mise en place, cette justice va dénicher beaucoup de gros poissons qui se trouvent au pouvoir, qui ont participé dans les massacres. Mais ceux qui ont tué les Congolais, il ne faut pas les chercher ailleurs. Il ne faut pas forcément les chercher en Ouganda. Ils sont là. Ils sont dans l'administration. Il faut qu'on arrive à une vraie justice, une justice qui sanctionne tout le monde.
Une justice qui sanctionne tout le monde, c'est avec ça que nous allons passer, n'est-ce pas, à notre deuxième thème de ce soir. La Commission électorale nationale indépendante, CENI à sigle, a publié jeudi 3 février dernier sa feuille de route du processus électoral. Dans ce document, elle évoque des contraintes auxquelles il faut trouver des solutions pour la réussite de la tenue des élections de 2023. Il s'agit, entre autres, du retard dans les financements des opérations électorales, de la volonté politique, de la production à temps des lois essentielles et de la sécurité, surtout dans la partie est de la RDC. La non-autonomie financière de la CENI portera atteinte à son indépendance, a déclaré le président de la centrale électorale en relevant plusieurs autres contraintes liées au respect de la feuille de route ainsi publiée ce jeudi. Il s'agit notamment des contraintes d'ordre politique, juridique, sécuritaire et logistique. Selon le président de la CENI, si ces contraintes ne sont pas vidées, elles auront une incidence sérieuse sur la concrétisation de tout ce que la feuille de route a annoncé. Denis Kadima en explique quelques-unes au micro de Jeff Ngoy.
Il s'agit d'abord des contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI, l'insécurité dans certaines zones du territoire national, ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Des contraintes financières. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Il y a aussi l'incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement. Nous allons bien sûr, dans l'avenir, discuter avec des partenaires internationaux. Là aussi, l'éventuel non-respect des engagements des partenaires qui souscrivent au financement du processus électoral pourrait avoir une influence négative sur les délais des opérations. Le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022, l'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales.
Nico Fay, responsable de Nico Fay Télévision et Combattant.net, et que pensez-vous de cette feuille de route publiée par la CENI sur le processus électoral en RDC?
Non, estimé, ça ne me surprend pas. Lorsqu'à chaque fois que je reviens avec le rappel national, je ne cesse de dire qu'il reste 690 jours. Pourquoi je le dis? C'était pour tirer l'attention de ceux qui gèrent l'argent des Congolais. Comment voulez-vous qu'il y ait 3 exercices budgétaires et qu'on ne pense pas à la CENI, et qu'on prétend être dans un état de droit? L'État lui-même a aussi ses devoirs et obligations. Il n'est pas dit que lorsque vous devenez gérant, tout l'argent des Congolais vous appartient. La CENI doit fonctionner avec l'argent. Il faut souligner que les agents même de la CENI acquisent 10 mois derrière eux de salaire. Les agents eux-mêmes ne sont pas payés. Mais entre-temps, de l'autre côté, on vous dit que non, il y a des dépassements, les caisses de l'État sont pleines, il y a maximisation des recettes. Mais à quoi sert cet argent-là si les engins de la CENI ne sont pas payés? D'ailleurs, on est incapable même de financer les élections indirectes des gouverneurs. On est incapable jusque-là. Les députés provinciaux menacent de ne pas aller au vote si on ne leur paye pas leurs arriérés. Dans le Congo central, c'est 10 mois. Dans l'Oumami, c'est 12 mois. Vous trouvez ça normal? Mais on vous dit que les caisses sont pleines, il y a maximisation, on est allé au-delà même des assignations. Mais à quoi faire cet argent-là? Et de l'autre côté, votre IGF, avec son président, ils vous disent qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui soit impayé. Vous êtes où? Et aujourd'hui, vous voulez nous renvoyer dans ces histoires des partenaires. Dans ce pays, on a eu un budget de 6 milliards, on a eu des élections financées sur fonds propres. Mais comment aujourd'hui vous dites que non, on a un budget de 10 milliards, 11 milliards, et que vous commencez aujourd'hui à nous parler des partenaires? Quels sont ces partenaires qui ont déjà tenu leurs engagements? Évitez-nous ces débats-là. Nous n'aimerions pas entendre ces discours-là des impayements. Nous voulons que les élections se tiennent avant le 31 décembre 2023.
Merci Marcel Ngoy, journaliste, éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Denis Kadima, président de la CENI, attire l'attention, n'est-ce pas, de tout le monde sur les dangers qui guettent ces processus électoraux. Si les contraintes ne sont pas vidées, la non-autonomie financière de la CENI portera atteinte à son indépendance, a-t-il prévenu. Et comment, à votre avis, peut-on rendre financièrement autonome la CENI pour lui permettre, n'est-ce pas, d'organiser ses élections sans qu'il se pose des problèmes, les élections de 2023?
Oui, je considère que ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait qu'on se réveille pour penser au financement des élections. C'est un mandat de 5 ans. Et dans un mandat de 5 ans, il était question de, pour la République, de prévoir une enveloppe, une provision mensuelle pour qu'aujourd'hui, qu'on soit à l'étape où on lance les opérations. Et là, les jours sont comptés, on est dans une course contre la montre, alors qu'on s'imagine qu'on pourrait manquer de financement. Alors donc, ce n'est pas aussi, aujourd'hui qu'il en parle, il nous en parle sous forme de contraintes. Donc on doit absolument faire un sursaut d'orgueil patriotique pour mettre du paquet et pour lui donner les moyens afin de commencer les élections. Je disais aussi que la situation de la CENI est complexe. Déjà la mise en place des structures et des aires animateurs a posé problème. Ceci pourrait avoir plus tard un problème de crédibilité. Mais ce n'est pas tout. À côté de ces deux contraintes essentielles, il y a la dimension de ce qu'on appelle les lois essentielles. Ces lois essentielles qui font défaut, il faudra attendre la session de mars. La session de mars pour aujourd'hui voir comment examiner la loi électorale, comment travailler sur la loi sur la répartition des sièges. Et la loi sur la répartition des sièges est aussi liée au renouvellement du fichier électoral. Et donc, les fichiers électoraux, il faut organiser l'enrôlement sur l'ensemble du pays, ce qui suppose que l'ensemble du pays doit être dans des conditions de paix. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'accès à l'ensemble du territoire du pays pour obtenir le corps électoral. Là aussi, c'est la problématique de la sécurité qui est là. Donc, les problèmes sont liés. Les questions judiciaires, les questions politiques, les questions de sécurité, les questions de logistique. Parce qu'aujourd'hui, même pour organiser cet enrôlement, il faut avoir les kits électoraux assez suffisants qui peuvent permettre d'organiser cet enrôlement-là de façon à reconstituer le fichier électoral. Parce que le fichier électoral que nous avons de 2018 est devenu vétuste, il faudra à tout prix le remplacer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller et pleurnicher, parce qu'en fixant la séance des élections en décembre 2023, il suffirait qu'il y ait le moins de retard pour se retrouver en 2024 sans avoir organisé les élections. Mais comment organiser ces passages-là en force sans qu'on ait organisé les élections dans les conditions? Je crois que la feuille de route telle qu'elle nous a présentée est un chapelet de bonnes intentions. Moi, j'aurais voulu que Kadima puisse présenter au peuple, à la nation congolaise, un calendrier électoral et qu'il puisse aussi définir quel est le budget global des opérations électorales avant, pendant et après les élections. Comme ça, même les partenaires qui doivent financer savent que non, il y a un chronogramme assez précis. On sait qu'on y a des élections telle date, à tel jour, et ça coûte autant. Alors pour l'instant, là, nous présenter une feuille de route, c'est effectivement ce qu'on appelle jeter de la poudre, de perles pimpin aux oreilles des Congolais. Il faut absolument qu'on arrive à fixer, une fois pour toute l'opinion,
merci,
et qu'on soit un calendrier, qu'il y ait un calendrier plus un budget global des opérations électorales. Sinon, c'est de simagrer. On va vous dire qu'on ira aux élections, alors que toutes les contraintes telles qu'elles ont été évoquées traduisent l'incapacité pour cette CENI, dans le format actuel, d'organiser les élections.
Merci Marcel Ngoy. Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans le Congo central. Retard dans les financements des opérations électorales, la volonté politique, la production à temps des lois essentielles et de la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Charles, au vu de toutes ces contraintes, vous pensez qu'il sera possible de résoudre tous ces problèmes, n'est-ce pas, d'ici 2023 pour ne pas connaître des problèmes dans l'organisation des élections? Est-ce qu'on pourrait vider ces contraintes d'ici 2023?
Guinée, qui fait que nous sommes l'un des rares pays où chacun des hommes politiques veut regarder une vie devant sa porte. Je me pose la question, la priorité pour lui-même, Kadima, lorsqu'il subit en lieu place du calendrier, il subit les contraintes, est-ce que c'est après s'être concerté avec lui-même, ou avec son bureau, ou avec les pouvoirs organisateurs? Parce que le vrai pouvoir organisateur n'est pas Kadima. Le vrai pouvoir organisateur, c'est ces pouvoirs-là qui financent les élections. Mais nous avons suivi la fin dernière, j'ai suivi au cours des différentes émissions même, on nous a parlé d'une fois, le ministre Kazadi, qui a clamé haut et fort que les fonds sont toujours mis de côté pour l'organisation sans faille des élections. Et donc les Congolais, estime que les élections seront organisées sans problème. Alors, est-ce que la priorité des Congolais est égale à la priorité du gouvernement et est égale à la priorité de l'homme de la CENI? Ce sont les quelques questions. Si on a du respect envers la population qu'on doit se poser. Mais ce qui me fait parfois regretter, c'est que Kadima connaissait mieux le pays. Si il connaissait, il maîtrisait mieux le fonctionnement de la centrale électorale qui évolue à la congolaise ou sinon à l'africaine. Parce qu'à mon humble avis, on ne peut pas convoiter un poste dont on n'a pas maîtrisé les rouages.
Charles Kipingani, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral dans ces pays?
Mais c'est déjà un discrédit qu'il jette à l'endroit de la population. On ne peut pas déjà rêver une bonne suite dès lors qu'à l'entrée déjà, on présente des choses. Il n'y a pas d'abord la loi électorale, mais je me demande sur quelle base M. Kadima va me dire que ça pourra entacher la suite du processus. Parce que c'est, on doit d'abord passer à la loi électorale. Est-ce qu'on va conditionner les élections au recensement? Est-ce qu'il y aura enrôlement? Est-ce qu'il y aura recensement? C'est toutes ces questions qui devaient discuter avec les pouvoirs.
Merci Nico Faye. On est à la fin de l'émission. Comment vous entrevoyez les processus électoraux?
Non, il y a une nébulosité, estimée. Pourquoi vous voulez le langage de bois? C'est voulu et entretenu. Les temps qu'on interpellait pour que les gens se mettent au travail, les gens étaient dans autre chose, dans les guerres froides, comment s'entretuer, comment se faire des coups bas. Or, les élections, on les prépare, sont un processus. C'est comme un étudiant. L'année académique commence, il doit aller prendre la matière, il doit revoir les notes, il doit passer les 2P, les interrogations, la session et les cas échéants, deuxième session. Mais vous, tout d'un coup, vous attendez la deuxième session, sans notes, sans TP.
Merci,
c'est
merci.
C'est pas normal, c'est la préparation. Au contrario, on assiste à l'impréparation généralisée.
Merci Nico Faye. Martin Moïse, qu'est-ce que vous proposez, n'est-ce pas, pour que les élections soient effectivement organisées en 2023 et des bonnes élections?
Oui, moi je vais terminer par demander à qui est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour que cette paix puisse envahir le Congo, permettre à tous ceux qui sont contre ce processus électoral de pouvoir quitter sur le chemin du peuple congolais qui a besoin de son ascendance, de son développement, son émancipation. Je vais demander à la classe politique de se ressaisir, de cesser des discussions autour de tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, autour du ventre, et de tout ce qui a comme gestion axée sur les intérêts du tube digestif. Qu'on puisse penser à la République, qui, elle, est unique, et c'est l'unique République que nous avons. Nous pensons que l'heure est arrivée de pouvoir consacrer l'essentiel des priorités vers la finalisation de la gestion de ce processus électoral de façon qu'il y ait alternance dans les délais constitutionnels. Parce que tout dépassement, tout glissement du délai constitutionnel, sans négociation, sans dialogue, pourrait déboucher sur des heures, sur des échauffourées dont les Congolais n'ont même plus besoin aujourd'hui. Moi, je crois que le président de la République a toute la responsabilité aujourd'hui de revoir, d'une manière ou d'une autre, en dehors du processus qui est engagé avec Kadima, comment prendre langue avec ses pairs, avec tous les autres acteurs politiques, pour envisager ensemble comment, d'une manière ou d'une autre, organiser ce processus-là. Le retard accumulé ne permettra plus d'organiser clairement les élections dans les délais. Les plaintes que l'autre formule sont des plaintes, sont des larmes du crocodile qu'il verse. Il n'y aura pas d'élection dans les délais, pour autant que les retards accumulés sont aujourd'hui une charge sur le chemin du processus. Et donc, comme c'est l'heure pas, le processus de Kadima ne va pas aboutir. Je demeure optimiste, parce que je considère que ça, le pays va survivre, mais le processus que lui a ne survivra pas, parce que le processus n'a toujours pas encore commencé. Si le mois de mars, le temps qu'on vote les lois, donc je ne pense pas qu'on pourra mettre en exécution l'ensemble des opérations dans les délais qui restent. Il faut être réaliste, imaginer l'avenir avec sérénité, avec le sens élevé de l'État, le sens de responsabilité.
Merci à vous, Martin Ngoy, à Nico Faye et Charles Kipingani d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Mimi Kindou qui est à la technique, à Kaline Koute à la réalisation sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi.